יום הכיפורים, c'est toujours au pluriel. La notion Yom Kippour n'existe pas. Dans vos machzorim, vous allez voir toujours Yom Kippourim, Yom Kippourim, Be Yom Kippourim Azeh. Ça n'existe pas Be Yom Kippour Azeh. La raison, c'est que ce jour-là dévoile deux degrés. L'un qui est caché, généralement, l'autre qui est dévoilé, généralement. Le monde caché s'appelle Léa, le monde dévoilé s'appelle Rachel. Ces deux femmes, ces deux actrices de la Torah, sont en réalité le fondement de la maison d'Israël. C'est-à-dire que, avec Léa et Rachel, nous avons toute la forme féminine de ce que le peuple d'Israël représente vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Léa est un monde cassé, et c'est pour ça que Léa, la Torah ne parle pas de sa beauté, elle ne parle que de ses yeux, alors que Rachel, étant donné que c'est le monde dévoilé, pardon, le monde d'en bas, eh bien la Torah va parler de sa beauté. Et elle va dire, de Rachel Aïta, Yefat Tohar, Veyefat Mar'e, Rachel était belle. Alors que concernant Léa, la Torah ne dit que Ve'aine Léa Rako, les yeux de Léa étaient tendres. Donc ces deux formes féminines, qui sont bien entendu, et vous le comprenez, des noms de code, l'un qui s'appelle donc Léa, l'autre qui s'appelle Rachel, à eux deux, nous avons la Neshama, Léa, et le corps, Rachel. Léa est à l'intérieur de Rachel, comme une Neshama à l'intérieur d'un corps. Les sages nous disent que Léa et Rachel étaient jumelles, alors qu'elles n'étaient pas nées le même jour. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa est la grande, donc c'est la phase cassée de l'homme, la face cassée de l'homme, et Rachel est à l'extérieur, c'est la face dévoilée. Lorsque cette face cassée entre à l'intérieur de cette face dévoilée, il y a un ensemble, et cet ensemble-là, c'est ce que nous appelons la Shekhina, la Malchut, la royauté d'Israël, peu importe, ça a beaucoup de noms. Cette royauté d'Israël, nous avons commencé à la construire à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'au départ elle est petite, et tout doucement elle grandit, et elle finira d'être construite pour l'année entière, le jour de Shmini Atzeret, Simchat Torah, et à ce moment-là, il y aura comme une union entre Akadosh Baruch Hu, le mari, et cette femme qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, ce jour-là de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, et donc c'est la joie dans le monde. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous dire que Yom HaKippourim est au pluriel. Et maintenant vous comprenez pourquoi. Il faut que ces deux degrés féminins, qui sont des degrés de dévoilement, s'accouplent, deviennent un. C'est-à-dire que le corps Rachel soit plein de la Neshama de Léa. De facto, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que tout ça, ce sont des symboles. Bien, pour nous, ça veut dire tout simplement que nous devons arriver à Yom HaKippourim en ayant changé quelque chose dans notre façon de vivre. Généralement, nous sommes dans un désir de recevoir. Et le jour de Yom HaKippourim, nous devons transformer ce désir de recevoir en désir de partager. On n'annule pas le désir de recevoir, car nous sommes des hommes et nous avons besoin de vouloir. C'est comme ça que nous existons. Le terme de nefesh, c'est vouloir. Dans la Torah, on ne dit pas imataroste. Ça n'existe pas dans la Torah. On dit im yef et nafsecha. Ton âme veut. Ton nefesh veut. C'est-à-dire que le terme de nefesh veut dire volonté. Et donc, il faut avoir cette volonté. C'est très important d'avoir la volonté de recevoir. mais la correction de cette réception, c'est de recevoir pour une idée. Pas recevoir pour soi, recevoir pour partager. Et quand vous recevez pour partager, votre réception devient de plus en plus bonne. Vous n'êtes plus les mêmes. Exemple, quelqu'un qui étudie un cours juste pour lui, eh bien, ce qu'il pourra retenir de ce cours, comprendre de ce cours, c'est pour lui. Mais si par exemple tu es en train d'étudier avec l'intention de redonner ce cours que tu es en train d'entendre plus tard à quelqu'un d'autre, ta réception, dès maintenant, sera différente. Pourquoi ? Parce que ton intention est de faire partager. Donc tu reçois afin de donner. Donc immédiatement, tu changes la forme de ton intériorité et ton cli n'est plus un cli fermé comme un verre. Si lorsqu'il reçoit, il est plein, il ne peut plus recevoir. C'est comme si on t'enlevait le fond et tu deviens un canal. Et donc tout va passer par toi parce que tu veux justement continuer à donner aux autres comme un tuyau. Tu avais une question ? Ça s'est arrangé. Ken ? Nachon. Et Yom HaKippourim, nous avons cette union qui nous permet de monter à l'étage du don. Tout à l'heure, j'ai parlé de Léa. Léa, c'est l'étage du don. Léa, c'est l'étage de la Neshama. La Neshama, elle est comme le lait. Elle veut donner. Son corps, il est comme la viande. Il veut recevoir. Quand tu jettes un steak par terre, il ne se répand pas. Il reste bloc. Quand tu verses du lait par terre, il se répand. Pourquoi ? Parce que le lait, sa nature profonde, c'est le partage. Sa couleur blanche, c'est le désir de partager. Le blanc, c'est un désir de partage. Yom HaKippourim, tu dois t'habiller en blanc. Parce que tu dois montrer que tu es là pour donner. Tu ne veux plus dans la réception. Ceux qui sont morts, on les habille en blanc. Pourquoi ? Le linceul est blanc. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut plus donner. D'accord ? Mais en réalité, il ne peut plus recevoir non plus. Donc il est dans le don total, c'est-à-dire le don de soi. C'est le plus grand des dons. Il est mort. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire au mort ? On va lui ouvrir les mains. Okay ? Un mort ne reste pas avec les mains fermées. Quand on le lave, jusqu'à 120 ans, ceux qui le lavent lui ouvrent les mains pour montrer qu'il est là dans le don total. Donc on lui met un vêtement qui est le vêtement du partage. Quand tu bois quelque chose de lait, ta neshama, étant donné qu'elle est de la même racine que le lait que tu bois, elle l'absorbe immédiatement. Donc tu peux manger de la viande immédiatement après. Tu n'as pas besoin d'attendre. Alors que si tu manges de la viande, étant donné qu'elle est contraire à la racine, à la source de la neshama, elle fait blocage. Donc tu dois attendre l'évacuation de cette viande, l'assimilation de cette viande. Même tout ton système doit travailler pendant 6 heures pour faire passer ce degré, puis après seulement tu pourras boire du lait. Bien, Yom HaKippourim, c'est cette blancheur-là. Cette blancheur qui est le partage. Donc c'est le jour par excellence où on peut apprendre le plus à devenir des partageants, des partageurs, et non pas seulement ceux qui veulent recevoir. Ok ? Donc c'est une journée spéciale. Quel ?
Peut-être
C'est la meilleure des compréhensions. L'ilmod ou les lamed.
Après,
Mais c'est comme ça que tu te remplis. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, au moment où je vous donne le cours, c'est moi qui étudie le plus. Pourquoi ? Parce que je suis en mode de don. Tu comprends le secret ? C'est au contraire. Plus je donne de ce que j'ai, plus je me remplis. C'est l'inverse de ce que l'homme pense. L'homme pense que s'il donne, il ne se remplit plus. Au contraire, plus il donne, plus il comprend. C'est ce que je dis, mais si tu te remplis avec l'intention de donner, même ton remplissage change de capacité. C'est-à-dire au moment où j'écoute un cours de mon maître, si je veux enseigner ce cours, si je veux le transmettre, ma compréhension est beaucoup plus grande. Fais l'expérience, tu verras que c'est pas facile de donner un cours. Pourquoi ? Parce que tu es bloqué. À un certain moment, tu commences à bloquer. Tu ne sais plus où aller, tu commences à bégayer. Pas facile d'être clair, limpide dans ce que tu donnes. Ça prouve que plus tu donnes, plus ton propre cours devient clair à tes propres yeux. Donc plus tes élèves vont le comprendre d'une manière simple. Ceci dit, nous allons voir la qualité qui se trouve à l'intérieur de cette journée, Yom HaKippourim. Donc j'ai appelé Yom HaKippourim Tikkun HaChet, un cours que j'ai écrit qui fait partie d'un livre. Et nous allons le voir ensemble. Yemei Chodesh Tishrei Vehamodim Amofiim Bo, les jours du mois de Tishrei et toutes les fêtes qui apparaissent en lui, Mehavim Tikkun LeChetos Shel Adam HaRishon. Bien, c'est tout une correction à la faute du premier homme. Quelle faute? À la Chilat Es Hadaat, d'avoir mangé, consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons d'une manière générale dans notre vie, c'est pour corriger cette faute. Autrement dit, dans la faute du premier homme sont incrustées toutes les fautes possibles et imaginables. Si vous voulez, le premier homme a fauté au maximum de ce qu'on peut fauter. Il n'y a pas plus grande faute qui englobe toutes les fautes dans cette faute-là. D'accord ? Parce qu'en réalité, c'est la racine, c'est la matrice de toutes les fautes possibles et imaginables. Donc il faut bien comprendre quelle était cette faute, en quoi il a fauté. Et quand tu commences à scruter et à approfondir cette faute, tu vas voir qu'elle comporte, qu'elle contient en elle toutes les fautes possibles. Nous avons des fautes qui sont très très graves, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shichud Damim. Vous les connaissez ces trois ? Avodah Zara, c'est donc ne pas écouter Dieu, écouter quelqu'un d'autre. Est-ce que l'homme a fauté là-dedans ? Un peu beaucoup. Il a écouté le serpent au lieu d'écouter Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, il a fauté dans Avodah Zara. Gilui Arayot, est-ce qu'il a fauté dans des rapports interdits ? Les sages nous disent qu'il a eu un rapport avec Chava avant le Shabbat, et ce n'était pas le temps d'avoir ce rapport-là. Cette consommation du fruit, c'est la même chose. Donc il a fauté aussi dans Gilui Arayot. Shichud Damim, meurtre. Est-ce qu'il a tué quelqu'un ? Lui-même. Il a marqué le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il est passible de mort. Donc il a amené la mort dans le monde, qui n'existait pas. Donc voilà déjà les trois premières fautes essentielles dans lesquelles l'homme, le premier homme, est tombé. Après, quand tu approfondis, tu vois en réalité que toutes les fautes sont à l'intérieur de ça. Donc, Redezé, Kolel, Shlosaz, Manim, Karim. On va essayer de voir trois temps qui se trouvent dans le mois de Tishrei, qui en réalité représentent la totalité des fautes et la totalité des capacités et des possibilités, plus exactement, de corriger. Bahem Nikar Beyoter Inyan Hatikun Rosh Hashanah Yom HaKippurim Chag HaSukkot Vetashlumo Besmini Chag Atzeret. Donc on va s'adresser, on va s'occuper de trois fêtes et l'une, la quatrième, qui clôture les trois. Première fête, ou premier jour plus exactement Rosh Hashanah, deuxième jour Yom HaKippurim, troisième fête Chag HaSukkot, et à la fin de Chag HaSukkot, Mini Atzeret, Simchat Torah. En Eretz Israël, c'est le même jour. Zmanim Ele, tous ces temps-là, ces trois temps et le quatrième, Omdim Keneged Shalosh Amadrigot Shebachet. Eh bien, ça vient corriger les trois fautes que je viens de vous dire. Chisaron de Emouna, première fête Rosh Hashanah, c'est le manque de Emouna. C'est Esar le Nachas, les hassis, les akilat apri. Donc, c'est ce qui a permis au serpent de pénétrer dans l'idée du premier homme et de le séduire pour qu'il faute. Donc, à Rosh Hashanah, la première faute était au niveau de la Avodah Zara. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah pour corriger cette faute? On doit focaliser toute notre émouna en un seul Dieu et pas écouter les autres. Comment est-ce qu'on fait ça à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous avez fait? Bien fait, on est mamlich et akadosh baruch hu. On doit couronner Dieu roi. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que j'accepte que ce soit lui le roi et personne d'autre. Donc je n'écoute personne d'autre, aucun serpent. D'accord? Deuxième degré, on va voir. Hatalat zohamat anachas bechava. Deuxième degré, le serpent a introduit donc son venin dans la forme féminine du premier homme, c'est-à-dire Ève. Et troisième degré, hayichut shenaasa ben adam lechava kodem hazman. Le rapport qui a été fait entre l'homme masculin et le côté féminin avant le temps. Alors maintenant, on va essayer de voir les trois temps. Berosh Hashanah, derech habakashot el Israël et amlich et akadosh baruch hu. Grâce aux demandes des enfants d'Israël de le couronner roi de l'univers, ve'ala olam kulo et sur le monde entier, metaknim et pgam ha'emuna bekol habria. Eh bien, on est là pour corriger la première des fautes. Donc, Avodah Zarah. Avodah Zarah, traduction, service étranger. C'est-à-dire servir quelqu'un d'autre que Dieu. Qui c'est le quelqu'un d'autre que Dieu? Le serpent. Aujourd'hui, le serpent, il existe ou il a disparu? Il existe, il est où? C'est quoi dans l'homme? Lequel, où ça se présente, où ça se manifeste? Dans quoi? Non. Dans sa pensée cartésienne. C'est-à-dire que la pensée cartésienne de l'homme, ça peut être son achat. Non. C'est ça qui amène à ça. Si cette pensée de l'homme sert le bien, même le nachash devient quelqu'un de bien. D'accord? Quelle est la valeur numérique du nachash? La même valeur numérique que Mashiach. C'est-à-dire que lorsque le nachash est bon, il devient Mashiach. Donc qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est la correction du nachash. D'accord? Donc le nachash, c'est l'homme qui réfléchit cartésien et qui ne pense pas que d'autres valeurs puissent gérer sa vie. Donc s'il ne comprend pas quelque chose de la Torah, Kakadosh Baruch Hu a dit un décret, pour lui, c'est annulé. Ça, c'est le nachash. On doit corriger cela en faisant venir l'intellect au niveau du cœur. C'est pour ça que la Torah a marqué « Vehaya » D'ailleurs, vehashevota el levavecha. Tu dois faire descendre ton intellect pour qu'il soit aussi imprégné de cœur. Tu ne dois pas agir dans ta vie et avec l'intellect seul, ni avec le cœur et les sentiments seuls. Tu dois toujours faire en sorte qu'il y ait les deux. Quand vous prenez une décision dans votre vie, il faut qu'elle soit une décision intelligente, mais en même temps qu'elle ait du cœur. Et tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit comporter les deux. Quand je donne un cours maintenant, s'il n'y a que mon intellect qui parle, ça ne marche pas. Il faut que j'introduise des notions de cœur pour imprégner, pour imbiber cette pensée et pour que les deux ensemble arrivent aux élèves. D'accord? Donc faites attention qu'il y ait les deux. Donc Rosh Hashanah, c'est Yom HaEmunah, c'est le jour de la Emunah. C'est le jour où on doit prendre sur soi les valeurs de Dieu. Donc on accepte que ce soit lui le roi. Donc tous les critères de ma vie selon lui vont être selon lui. C'est
des fois,
c'est pour ça que c'est difficile, pas incompatible, difficile, c'est vrai, mais il faut toujours faire l'effort de faire le lien entre les deux. Parce que parfois, si tu coupes ton intellect de ton cœur, tu n'es plus dans la vie. Tu es robotisé par quelque chose. Et si c'est l'inverse, tu n'es que au niveau des sentiments, tu ne peux pas agir parce que tu vas faire n'importe quoi. Donc il faut tout le temps avoir un cerveau, un cœur et des actions. Les actions, c'est le foie. Les initiales de Moar, le cerveau, lève le cœur, kaved le foie, c'est melech. Je deviens roi. Donc roi, c'est quelqu'un qui a un cerveau, mais qui prend en compte aussi son cœur, et comment réaliser cette chose-là avec le sang, c'est-à-dire les actions. C'est ce qu'on appelle melech. Si tu ne prends pas conscience de cela, phrase de Shalom, c'est quelque chose qui manque et tu ne peux pas prendre de véritables décisions. Donc à chaque fois, il faut faire les deux. D'accord. C'est pour ça qu'il faut savoir marier. Il faut savoir marier. Si tu as une contradiction entre les deux, c'est quelque chose ne va pas dans la formule. D'accord. Donc, Rosh Hashanah, on doit revenir à la Emouna, en un seul Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait descendre Dieu dans notre monde, c'est ce qu'on a dit, on le couronne roi. Yom HaKippurim, deuxième jour, Usot Kabbalat Aluchot Asmin. Que s'est-il passé avant tout, Yom HaKippurim? On a reçu les deuxièmes tables. Vous vous rappelez que les premières tables se sont cassées? Quel jour elles se sont cassées? Hein? Le 17 Tamouz. Pourquoi elles se sont cassées? Parce qu'on a fait un veau d'or. Pourquoi on a fait un veau d'or au moment même où Dieu nous donne les tables? Pardon? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que des valeurs de Dieu puissent arriver sur terre. On se dit que c'est pas possible. Il n'y a aucun Dieu qui est jamais descendu pour parler aux hommes, encore moins qu'il leur donne un objet qui vient du ciel. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc ça se casse la figure, pour ne pas dire autre chose. D'accord? Donc à la place de recevoir cette droiture divine, on fait des veaux, on fait des bêtises. C'est ça que ça veut dire faire un veau d'or. On tourne en rond. Le jour où ça marche, c'est Yom HaKippurim. Incroyable. C'est-à-dire que Yom HaKippurim, on a reçu les tables et cette fois-ci, elles ne se sont pas brisées. Ça veut dire quoi concernant ce jour-là? Si ce jour-là, on reçoit des tables qui viennent d'en haut, de l'infini, de l'absolu, et qu'elles tiennent dans notre monde, ça veut dire que l'infini a pu rentrer dans notre monde sans se casser la figure. Ça veut dire que l'homme est capable de contenir, de retenir les valeurs du ciel. Vous comprenez la leçon? C'est pas juste que Dieu a donné deux tables et elles sont là et on les a mis dans une armoire, ça y est. Ça veut dire que Dieu est descendu sur terre. C'est la première fois dans l'histoire où ça se passe. Où un élément venu du ciel descend sur terre et il reste. Il ne se détruit pas. Ça veut dire énormément de choses. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où ça arrive. Tiens. Bien fait. Bien fait. Les deuxièmes tables sont néanmoins moins fortes, on va dire, que les premières, mais elles sont au niveau de l'homme. Autrement dit, les premières tables n'étaient pas au niveau de l'homme. Alors pourquoi Dieu les a données? Hein? Il a fait pour qu'on ait un idéal. C'est-à-dire que dans notre vie, on doit arriver un jour à recevoir les premières tables et ne pas se suffire des deuxièmes. Un jour viendra où on recevra les premières tables. Qu'est-ce que c'est les premières tables? Ça correspond à quoi? Quelle Torah? La Torah des secrets, le Sod, le Zohar. Le Zohar, c'est les premières tables. D'accord? La Mishnah, la Gemara et la Halakha, c'est les deuxièmes tables. Donc l'idéal est toujours maintenu. Dieu voulait donner les premiers, même si ça s'est cassé la figure, c'est parce qu'on n'était pas prêt. Mais le but étant qu'on arrive un jour à ça. Donc il les a donnés. Même si ça se casse, c'est pas grave. Deuxième table, on les a reçus, c'est-à-dire on va commencer par une Torah un petit peu plus basse, ou beaucoup plus basse, mais tout doucement on va grimper, on va monter, et au fur et à mesure des générations qui passeront, on va arriver à recevoir les premières tables. Ha sous la forme de la première fois, c'est-à-dire des objets qui descendent du ciel, mais sous la forme de la Torah, de la Kabbalah, que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, nous a donné. Donc, ce que nous avons reçu Yom HaKippourim, c'est, malgré tout, l'étable. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'explique, Milui Erke Hamuchlak Be'olamenu. C'est le dévoilement des valeurs de l'infini, de l'absolu, béni soit-il, dans notre monde. Mibli Shadavar Idrom Le Masber. Sans que cela cause une cassure, une brisure. Que si c'est arabe, matan alouchot, arisonim, comme ça s'est passé lors de des premières tables, de la réception des premières tables, qu'on n'a pas reçues réellement. Zoapa marisona, donc c'est la première fois dans l'histoire, pas historia, shaolam azé, que ce monde-là dans lequel nous sommes, mesugal et achil et erech elyon, il est capable de contenir une valeur supérieure, velisro d'auto, et en plus de ça, ne pas se casser, résister. Pas mal. Belle chose. Donc Yom HaKippourim, il a en lui une capacité de quoi? De faire le lien des mondes. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai commencé mes propos en disant que ce jour-là, il y a deux niveaux qui sont capables de se rejoindre. Rappelez-vous, le niveau Léa et le niveau Rachel. D'accord? Olam Abba et Olam Azé. Donc ce jour-là me prouve, par le fait qu'historiquement, un jour, le peuple d'Israël a reçu les tables, il est possible de faire le lien entre les mondes. Ça vous parle? Ok. L'obirdi n'est pas pour rien. Bayom, bobayom, nisfeka, zohama, azohama, misrael, kefish, adavar, karab, et matan, torah. Ce jour-là, il n'y a plus d'impureté dans le monde, en tout cas dans le peuple d'Israël, comme ça s'est passé le jour du don de la Torah. Le jour du don de la Torah, la Gemara nous dit « Pascha Zohama Hanachas Mi'Israël ». L'impureté du serpent nous a quittés. Parce qu'au moment où on reçoit la Torah, la lumière de la Torah est tellement grande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule toutes les pensées négatives. Or, notre pensée négative la plus grande, c'était celle de l'origine, c'était celle du serpent. Donc le serpent, c'est notre plus grand ennemi. Il va revenir dans l'histoire sous plusieurs formes. Il va se déguiser. Le serpent, il se déguise. Il change de peau. C'est pour ça que le serpent change de peau. Il ne marche pas droit. Il est sinueux. Okay? Alors que Kadosh Baruch Hu, on dit « Tzadik v'yassarhu ». Donc tu reconnais un serpent lorsqu'il ne te parle pas clairement, lorsqu'il ne te regarde pas dans les yeux, lorsqu'il essaie de t'embrouiller. Tout ça, ça s'appelle le serpent. D'accord? Ce serpent-là va changer de peau dans l'histoire. Un jour il va s'appeler Haman, un jour il va s'appeler Amalek, un jour il va s'appeler Bilham, un jour il va s'appeler Balak, un jour il va s'appeler Hitler, un jour il va s'appeler Kharminidjan ou je sais pas quoi, un jour il va s'appeler Dimkon Il. Vous comprenez comment ça marche? Tout ça, c'est la même force du serpent. Alors ça, c'est au niveau extérieur. Mais au niveau intérieur, on a le même. En petit. Ça veut dire que c'est la force qui te combat toi-même tous les jours. Quand tu te lèves le matin, ta flemme, ta fatigue, ta paresse, ton manque de désir, ton manque de vitalité. Tout ça, c'est le serpent. C'est pour ça que le serpent, il est toujours dans la poussière. La poussière, c'est lourd, c'est-à-dire, ça a envie d'une seule chose, c'est de se mettre en position horizontale. Dès que tu vois un lit, pouf! Tiens. Donc, plus tu es collé au lit, tiens, ça s'appelle en hébreu Chayav Mita. C'est un jeu de mots, tiens. C'est Chayav Mita, il est obligé d'être dans le lit, mais c'est Chayav Mita, Chaz Veshalom, il se rapproche de la mort. Mita, le lit, c'est avec un tête. Mita, la mort, c'est avec un tas. Mais c'est pas grave, on entend la même chose. Donc, Sinaï, on s'est nettoyé de l'influence du serpent. Yom HaKippourim, on a la même force dans l'univers. Ok ? on est capable de se nettoyer de la force du serpent. C'est énorme. D'accord? Ça veut dire que qui ne fonctionne pas ce jour-là, qui n'a aucune force, il y a fait le Yetzera, le Nahash. Comment on l'appelle en d'autres termes? Le Satan. Donc la Gemara va jouer un jeu de mots qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Elle va dire Ha Satan, le Satan est en valeur numérique 64. Alors que l'année comporte 365 jours. Donc il y a un jour dans l'année où le Satan ne peut pas agir. Et la Gemara dit c'est Yom HaKippourim. Comprenez? Or, qu'est-ce que c'est que le Satan? C'est quoi? C'est le diable? Il accuse. C'est quoi? Il a deux cornes et une fourche du Club Med? C'est quoi le Satan? Quelqu'un qui sait danser. Rocked, comment vous l'appelez? Rakdan, quelqu'un qui sait nager, sauter, comment vous l'appelez? Sahyan, quelqu'un qui est sauté, qui dévie, comment vous l'appelez? Satan. Donc Satan, c'est la force de déviation qui se trouve dans chacun de nous, qui nous sort du droit chemin, Kakadosh Baruch Hu. C'est ça le Satan, c'est pas un diablon, c'est avec des cordes. Et ça, c'est des bêtises dessinées, bandes dessinées de l'imagination des fatigués de la tête. Donc, le Satan, c'est une force déviatrice. Ça vient du mot Sia. Comme la femme qui a dévié son mari, on l'appelle la Sota. C'est la même racine. Et qui a donné naissance au nouveau mot en hébreu, Suyot. Suyot, c'est la racine du mot Satan. D'accord? D'ailleurs, la Gemara nous dit, quelqu'un ne peut pas fauter, elle a une kenichnessa boruach sout. Donc c'est une expression de nos sages. Ruach sout, un souffle de sottise, de déviation. Quand tu dévies dans ta pensée, tu peux fauter. C'est ça qui amène la faute. Vous êtes avec moi ou je vous dis que je suis là, ça va? Ok. Donc vous voyez que Yom HaKippourim, il a une force incroyable. La Gemara nous dit Itsumo Selyom Mechaper. L'essence de la journée, elle travaille la kapara. Elle nettoie. Donc dans cette journée, Dieu a mis une formule magique qui circule dans la journée de Kippourim. Et elle nettoie. Knissato c'est la Kohen Gadol Bayom HaKippourim Lifnai VeLifnim. Le fait que le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints. Quel jour il rentrait dans le Saint des Saints? Kippourim. D'accord? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? L'Aktoret. D'accord? Il rentrait avec l'Aktoret. Qu'est-ce que c'est l'Aktoret en hébreu? L'encens. À quoi ça sert? À donner des bonnes odeurs à Dieu, c'est King Kong, c'est quoi? Ça élève qui? La matière? Tu peux faire un korban? Quelle est la racine du mot ketoret? Que ça veut dire ketoret? Vous savez? Non, ketoret c'est avec un ta, ketoret c'est avec un te. Ketoret, les lettres en hébreu, le te et le signe, peuvent changer entre elles, vous savez? Il y a des permutations de lettres. Donc, Ketoret, c'est comme Ketoret. Je vous aide un peu. Donc, qu'est-ce que c'est Ketoret? Le lien, le fait d'attacher. Donc, la Ketoret, c'est tout simplement comprendre que ce monde est une seule et même unité. Quand tu es dehors, tu ne comprends pas ça. Tu vois des détails, tu as un enfant qui est en train de crier là-bas en bas. Aucun rapport avec toi, d'accord? Tu comprends même pas le lien. Même ton copain à côté de toi, tu sais même pas quel rapport il a avec toi. À part que vous faites partie du même cours au Machon Meir. Mais au niveau des Nessamot, tu sais même pas si vous n'étiez déjà pas ensemble dans un autre Gilgoul. Ah. Okay. Et si vous êtes revenu aujourd'hui pour corriger quelque chose que vous n'étiez pas capable de corriger là-bas. Ah. Okay. Eh bien, quand on rentre au Kodesh HaKodashim et qu'on porte le lien, la Ketoret, on est capable de voir tout ça. Donc le Kohen Agadol, que voyait-il dans le Saint des Saints? Tous les liens entre tous les hommes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est incapable, tu ne peux même pas comprendre, l'ordinateur le plus perfectionné au monde ne peut même pas comprendre ce que c'est en train de te dire. Il savait exactement tous les liens. D'où tu étais, qui tu étais, qui tu es devenu, d'où tu étais, ta femme, ton fils, ton ami, ton voisin, moi, lui, l'autre. Comme s'il y avait des filles et il savait tout. Au niveau des âmes, des hommes. Et du passé, et du présent, et de l'avenir. Tout il voyait en une seule vision. Quelque chose que le cerveau humain ne peut pas comprendre. Deuxièmement, il n'y avait pas que des liens au niveau personne, il y a des liens aussi au niveau territoire. Donc il peut savoir, il voyait là-bas dedans, tous les liens entre tous les endroits de ce monde. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie sur cet endroit sur Terre, il y a un tremblement de terre de l'autre côté de la planète. Il pouvait savoir ça. À tel point que Shlomo HaMelech, qui connaissait ses secrets, plantait des piments sur le Harabaï, et ces piments poussaient en Afrique. Et il savait où aller les récolter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est comme dans le corps humain, quelqu'un qui connaît le secret du corps humain, quand il vous appuie sur un point, ça vous fait mal ailleurs. D'accord? Aujourd'hui c'est connu, mais c'est la même chose au niveau de l'univers. Si on connaissait l'univers et on le voyait comme on voit un être vivant, entier, on comprendrait tout ça. Toutes les cellules de ton corps, mais une cellule à côté d'une autre. C'est comme toi à côté du petit gosse qui crie là-bas en bas. Les deux cellules, est-ce qu'elles savent qu'elles ont un lien entre elles? Elles savent. C'est pour ça qu'elles sont encore en toi. Nous, à l'extérieur, on a oublié quels sont les liens entre nous. Donc vous ne comprenez plus rien, on ne comprend plus rien. D'où je sais que ces cellules, elles savent? Parce que tu serais levé, tu serais réveillé ce matin et ton oreille serait restée dans le lit. D'accord? C'est pas possible. D'accord? Baruch Hashem. Qui fait le lien entre ton oreille et le reste du corps? Kanestama, pas le cerveau. Même si c'est un mort, le cerveau il existe. Et pourtant, tu viens au bout de quelques mois, tu vois l'oreille détachée du corps. D'accord? C'est ce qui se passe, c'est le mort. Tout le corps, les éléments se séparent. Il n'y a plus rien qui tient. Donc qui faisait le lien? Qui était l'élément de colle de tout ça? Une neshama, quelque chose qui circule et qui fait le lien de tout, et qui te donne une information. Vous faites tous partie d'un seul et même organisme. Tu comprends? Sinon, ton oreille serait restée dans le lit ce matin. Elle t'aurait dit, écoutez, moi je suis crevé, allez-y. J'en ai marre de psychos, j'en ai marre de tout ça. On m'a dit de dormir sur mes deux oreilles. Moi, j'ai pas dormi, on m'a dormi sur une seule. Je ne sais pas comment on peut dormir sur les deux oreilles, mais les Français, ils ont toujours des combines. Je suis crevé. Je reviens à 8h30, 9h, peut-être que je viendrai au cours. Donc, tu viens, tu la regardes dans le lit, tu découvres le truc, tu dis alors mon oreille, comment ça va? Tu dis, oh, là, je kiffe, laisse-moi tranquille. C'est en mon nom qu'on a appelé l'oreiller. Alors laisse-moi dormir. Tu viendras me récupérer ce soir si j'ai une bonne constitution, sinon je vais aller me balader en ville. Ça vous fait rire, d'accord? Mais c'est exactement pareil quand tu comprends même pas le lien avec ton copain. C'est énorme. On est tellement déficité dans ce monde qu'on ne sait même pas les liens entre nous. Alors que ton oreille, elle sait qu'elle fait partie d'un organisme. Et c'est pour ça que tout ton être se lève en même temps. Tous tes membres se lèvent en même temps pour aller crier. Et pour venir au cours. Tu n'as pas laissé quelque chose en route. D'accord? Une petite main qui marche comme ça, hein? Par terre. Bien? La famille Adam. Bien? Bien fait. Alors la chaîne qu'on attache au Cohen, pourquoi on lui attache cette chaîne? Hein? Il meurt et pourquoi il mourrait? Parce que il ne reçoit pas la Shina. Et alors? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas être prêt? Il se déconcentre. Et qu'est-ce que ça veut dire se déconcentrer? Écoute bien ce que tu es en train de dire. Et après, fait se détacher de tous les liens. Tu n'as plus de centre, tu es déconcentré. Tu n'es plus centré, tu n'as plus compris que l'univers c'est une seule et même unité, un seul et même organisme. Vous comprenez ce secret ? Donc je vous ai dit qu'il comprenait tous les liens au niveau des hommes, des êtres, des animaux. Il comprenait tous les liens au niveau des territoires. Et il comprenait tous les liens au niveau des... Qu'est-ce qu'il nous reste ? Du temps. C'est-à-dire qu'il savait exactement quelle chose aboutit à cause de quelle autre chose. Donc hier tu as fait X, demain tu as Y, conséquence. Ça tu ne sais pas toi. On ne sait pas. On a perdu la notion des liens au niveau des temps. Vous comprenez qu'on a, on comprend plus rien. C'est pourquoi on appelle le Zman, Zman en hébreu. Parce qu'il invite. Un autre. Zman vient du mot le Azmin. Azmana. Azmana veut dire invitation. Donc le Zman, de maintenant, il invite un autre Zman de, dans 5 minutes, qui invite lui-même un autre Zman, il est tout le temps en train de le Azmin. Comprenez ça ? Non. Mais si tu ne sais pas le secret du Zman, tu ne sais pas ce que va engendrer ce que tu fais maintenant. Par exemple, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans 10 minutes ? Non. Kadosh Baruch Hu, on ne sait même pas. Pourquoi on a perdu cette vision ? Eh bien, le Kohen Agadol, au sein des saints, Yom HaKippourim voyait tout. Il voyait jusqu'à la fin des temps. Du début des temps jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez la force qu'il y avait là-dedans ? Donc, il était déconcentré, donc, qu'il considérait l'univers comme un ensemble de morceaux qu'on a collés, Franck Essel. Il prend des morceaux, il les coud. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Eh bien, immédiatement, il mourrait. Et c'est pas la seule raison pour laquelle on lui a cassé les selles. Il y a une raison beaucoup plus profonde que ça. Ça, c'est pour les enfants antiques. La véritable raison, c'est que quand tu arrives à ce niveau-là, ça te met envie de revenir. Imaginez-vous, il est rentré. Maintenant, il voit tout ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant de ressortir, moi ? Ça y est, j'ai atteint le summum. Je vois tout au niveau du territoire. Je vois tout au niveau des hommes. Je vois tout au niveau du temps. Je suis comme Akadosh Baruch Hu. Donc les autres dehors, ils attendent. Parce qu'il est rentré. Il leur dit, je ne veux plus sortir. Mais comment tu ne veux pas sortir ? Tu es rentré pour nous. Non ! Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne peux pas rentrer le chercher. Donc, on le tirait avec la chaîne pour qu'il revienne dans notre monde. Vous comprenez ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, quand tu montes un petit peu haut dans l'étude, tu n'as pas envie de redescendre. Il faut vraiment qu'on te tire. Allez, viens, on va faire un petit tour en ville ce soir. Non, laisse-moi, j'ai pas envie. C'est trop beau. Qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais aller voir des gens nuls. Après la fête, je vais manger un shawarma. Laisse-moi là, je kiffe la vie. Alors, de temps en temps, il faut vite, vite vous refaire descendre pour ne pas que vous soyez là-bas dans les sphères célestes. Il faut que vous soyez aussi dans la vie. Donc, on vous attache avec un fil, une corde, pour vous ramener dans le monde de la réalité. Donc, quand est-ce qu'on faisait la fête au Kohen quand il rentrait au Kodesh HaKodeshim ? Ou quand il sortait. Quand il sortait. Maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que tout le monde était soulagé. On s'est dit il va rentrer, il ne va plus ressortir le maître. Donc avant qu'il rentre, qu'est-ce qu'on le faisait faire ? On le faisait jurer. Masbi'in oto, la Gemara nous dit. Tu as besoin de faire jurer le Kohen Gadol, tu n'as pas honte. Ben oui. Parce que quand il est dedans, c'est comme les morts. Les morts, quand ils ont goûté à la lumière, ils ne veulent plus revenir. La preuve, ils ne reviennent pas. C'est juste à la fin des temps qu'ils vont revenir. Sinon, tous les morts reviendraient si ce n'était pas bien. Ils feraient tout pour revenir. Mais c'est tellement agréable, il y a une lumière tellement forte qu'ils sont attirés. ils veulent plus revenir dans notre monde, ils se disent, mais c'est un monde de nains qu'il y a dessus. Ouais. Oui, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire Matsbeim Moto? Quelle est la racine du mot Matsbeim? Boa en hébreu. Qu'est-ce que tu entends dans le mot Li Kava? Seva. Qu'est-ce que c'est Seva? Seva, Sevoa. Qu'est-ce que ça veut dire? Reviens à la nature. Car la nature, elle est basée sur le chiffre 7. Quel est le chiffre dit hors nature? Le 8. Donc il est rentré dans le 8. Le Kohen Agadol, il rentre dans le 8. Et nous, on veut qu'il reste aussi dans le 7, qu'il nous revienne dans le 7. Alors, Masbi'in Oto, Koshrim Oto la Seva. On l'attache au 7. Masbi'in. Comprenez? Sinon, il reste dans le 8. Parce que si c'est le grand 8, ça se termine jamais. Tiens. Quand ça s'arrête, tu dis, oh non, encore. Eh bien, là-bas, ça s'arrête jamais. Si on le tire pas, on lui fait signe qu'il faut sortir, il peut rester là-bas. Il est tellement avalé par ce qu'il voit, que même Harry Potter, c'est de la rigolade à côté. Tiens. Donc ça, c'est Yom HaKippourim. Donc Yom HaKippourim, c'est le chiffre 8. Donc comment est-ce que parle la Gemara, combien de jours avant Yom HaKippourim ont prélevé le Kohen Gadol pour lui apprendre le travail? 7 jours. 7 ayamim, kodem Yom HaKippourim, mafritim Kohen Gadol. Le Lishkat Palhedrin. 7 jours avant Yom HaKippourim, on prenait le Kohen Gadol pour lui permettre de construire son être pendant 7 jours pour arriver le 8e jour à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce que tu fais pendant 7 jours? C'est quoi ta préparation? Eh bien, tu dois nettoyer tous les 7 degrés de ta vie. Nous avons 7 degrés dans notre vie qui correspondent aux 7 sphères inférieures de notre vie. La bonté, la rigueur, l'équilibre, l'éternité, la beauté, le fondement et la royauté. En hébreu, Chesed Gevura Tiferet Netzach Hod Yesod et Malchut. Il faut corriger tout ça pendant 7 jours. C'est un travail énorme. C'est ce qu'on essaye de corriger pendant Sirat HaOmer, pendant 7 semaines. C'est-à-dire, au lieu de corriger chaque élément un jour, on le corrige une semaine. Et on a la même chose à Sukkot. Chaque soir de la Souka, on corrige un élément. Premier soir, qui on invite? Abraham. Qu'est-ce que c'est Abraham? C'est de la bonté. Et ainsi de suite tous les soirs. C'est pas seulement un invité, il vient, il est assis quand il mange. Il dit, oh Abraham, tu veux goûter quelque chose? C'est pas ça. Tu dois corriger en toi la bonté de Abraham. C'est ça à l'invité. C'est pas juste mettre un siège et avec un petit livre dessus et tu lui dis, allez Abraham, tu peux venir s'il te plaît? C'est rigolade ça. C'est bien? Donc, Bezat Hashem, c'était juste pour vous dire un petit peu comment on rentre dans ces inyanes-là. Donc, Yom HaKippourim, ça nettoie quoi? On a dit l'impureté du serpent. Qu'est-ce qui nous reste? Chag HaSukkot. En bas. Chag HaSukkot, ma vie de Tachibur HaMekoreh, Aïkayam, Ben Israël et Ben HaKadosh Baruch Hu. Okay? Pour corriger le mauvais lien qu'il y a eu, le rapport interdit entre Adam et Ève. Maintenant, nous, on fait un autre rapport supérieur entre nous et HaKadosh Baruch Hu. C'est ça, Chag HaSukkot. Donc, on se construit la Souka. C'est comme pour se construire un nid dans lequel HaKadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël vont finir. Vous comprenez ce que c'est le secret de la Souka? Donc, je résume notre cours. Les trois temps de mois de Tishrei viennent corriger les trois fautes du premier homme. Avodah Zara, Gilui Arayot et Sefirut Damim. C'est pour ça qu'on amène la vie à Sukkot avec le Loulav. Combien de Na'anouim on a avec le Loulav? À chaque fois que tu fais un tour, il y a combien? Non? Combien de fois tu fais comme ça? À chaque fois? Il y a combien de directions? Il y a combien de directions? 6 directions. Et combien de fois tu fais le mouvement? Trois fois six. Vivi, chai, la vie. Facile. Donc, 1, 2, 3, je me tourne, 1, 2, 3, et c'est ça, c'est dans 6 directions. Ok? Donc je dois corriger la vie, je dois ramener la vie dans ce monde. Moralité, qu'est-ce que vous devez retenir de ce séjour? À la sortie de Yom HaKippourim, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Aller manger, avant de faire la soukha. Pourquoi c'est important de manger à la sortie de Yom HaKippourim? Pas parce que vous avez faim. Pour revenir à la matière, pour revenir à la vie. Parce qu'il est dangereux de rester dans cette journée céleste. Vous avez compris? Donc on ne peut pas faire Yom HaKippourim deux jours. Quelle est la plus grande correction de Kippourim? Bien fait, Pourim. Qu'est-ce que ça veut dire Kippourim? Comme Pourim. Donc Pourim, c'est le modèle. Un jour, il faudrait que Yom HaKippourim devienne comme Pourim. Qu'est-ce qu'on fait à Pourim? On est là dans la matière, bien comme il faut. D'accord? Est-ce qu'un jour dans l'histoire du peuple d'Israël, on a mangé Yom HaKippourim? Hein? Il y a fait, mais on... Shlomo HaMelech a décrété au moment du Beth Amidash qu'on pouvait manger. Les rabbins de l'époque, ils ont dit qu'ils étaient des cailloux, non? Comment il peut se permettre de faire un truc pareil? Et bien voilà. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où tout change. Mais ça, c'est pas à nous de décider. C'est des choses qui viennent d'en haut. Et quand il y a des gdolim, tels que Shlomo HaMelech, alors on peut leur faire confiance. Toda Rabba, Gmar Chatima Tova.